Merci Marie-Odile. Et je commence par vous dire ma joie. Et je la dirai avec un petit apophtegme que vous connaissez par cœur, que vous connaissez par cœur. J'aime pas cracher dans le micro, mais c'est pas grave. Un grand savant de Princeton. Vous aurez à me dire le nom de ce grand savant. Le grand savant de Princeton se réunissait dans un jardin public tous les soirs et les enfants venaient autour de lui et lui posaient des questions et ça durait une heure, deux heures, ça dépendait des jours. Mais tous les soirs, il était là. Et ses copains qui travaillait sur la bombe atomique avec lui, ses copains lui disent « Mais comment tu peux parler de la relativité à des enfants ?» Bon, d'abord, de quoi tu leur parles ?« Je leur parle de la relativité. » »« Mais comment tu peux parler de la relativité à des enfants ?» Et il a eu cette phrase merveilleuse. « Seul Einstein peut expliquer la relativité à des enfants. » Voilà. Merci Philippe. Tu as consacré 40 ans aux chroniques. Seul.
Faire ça, les chroniques à bombe atomique.
Il dit
faire les chroniques à la bombe atomique.
À la bombe atomique. Mais tu as compris la pauvre tegme. Seul, et ça je me réjouis, que pour la catéchèse d'adultes, on ait des soutiens solides. Parce que dépenser tous les efforts que vous dépensez pendant un nombre d'années, gratuitement, sur des bases molles, serait quelque chose que je ne me pardonnerais pas. Voilà. Vous avez eu une petite feuille, on va travailler sur cette petite feuille. J'ai fait à votre intention, sur le dernier livre de Finkelstein, sur le royaume du Nord oublié, vous voyez, le royaume oublié, ça nous oblige à refaire les chronologies relatives entre l'histoire archéologique et l'histoire biblique. Alors, je vous ai fait ce que j'ai appelé fresque de Omri à Josias. Je vous ai fait un texte. Alors, vous ne l'avez pas, mais ça va paraître sur référentiel. Ce sera sur le site référentiel. Il y a quand même beaucoup de pages. Ça vous donnera une fresque complète des différents royaumes et de la situation du Nord et du Sud par rapport à ces royaumes, avec les dates qui vous permettront de corriger les dates bibliques avec les dates réelles. Voilà. Pourquoi ? Ben parce que la théologie, elle naît de l'histoire. Le credo naît de l'histoire. C'est en relisant l'histoire à leur façon qu'ils expriment un credo. On vient d'en avoir la démonstration encore. Voilà. Et alors, bien sûr, une fois qu'on a montré le credo de l'histoire, on peut aller plus loin et dire, mais comment ce credo de l'histoire s'est tissé sur la trame des grands mythes, comme on les appelle, du Moyen-Orient, Ougarite, Égypte, Mésopotamie, etc. Si on n'a pas le credo de l'histoire. On ne peut pas comprendre comment ce credo s'est tissé sur la trame pour donner à cette trame une couleur qu'on appelle la foi biblique, les textes fondamentaux, non seulement de l'histoire, mais la vision du cosmos qui en ressort. Voilà. Alors je pense que ce petit travail-là pourra vous aider à faire ce... Mais vous sentez bien que c'est un travail qu'il faut mener tout doucement et... voilà. La foi naît de l'histoire, des confrontations de l'histoire. Et à la fois, elle est donnée par Dieu. Et c'est la foi qui aide à relire l'histoire, qui aide aussi à donner à cette histoire le sens du monde, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga du monde. Qui nous est donné aussi par la Bible, on vient de nous le rappeler. L'alpha Brigitte et l'alpha chronique. L'oméga, pardon, chronique. Alors je voudrais réfléchir un petit peu sur ça avec vous. Je vous ai donné un tiré de Provence qui s'intéresse aussi aux chroniques. Voilà, je vous ai tiré de Ézéchiel, The Book of the Kings, Ézéchias, le livre des rois. Voilà, je l'ai dans ma valise, si vous le voulez. Il est en anglais, mais c'est tellement beau qu'on fait l'effort. Voilà. Alors, peut-être quand même une petite... La foi naît de l'histoire. C'est facile à dire, cette histoire-là. Qu'est-ce qui peut un peu confirmer ce propos, ce point de départ que je donne? Parce que, ben, comme bibliste, je vois bien que c'est les décrochements entre l'histoire de la foi et l'histoire que de plus en plus maintenant on arrive à cerner en archéologie. C'est là qu'on voit les interprétations que font les auteurs bibliques de cette histoire. Alors, si j'essaie de me situer, qu'est-ce que ça peut apporter à des gens aujourd'hui? Je me lance à l'aventure parce que ce n'est pas mon travail habituel, mais allez, à mon âge, on peut faire des sentiers, on peut explorer des sentiers nouveaux. La foi naît de l'histoire. Je vais prendre comme témoin, comme base, un propos d'Axel Kahn dans une conférence qu'il donnait avec Thierry Magnin.
Notre recteur.
Votre recteur.
L'Université catholique de Lyon.
Voilà. Et que j'ai eu comme élève.
Ah oui.
Bon, c'est vraiment sympathique, oui. Et on s'apprécie beaucoup, je pense. Oui, mais voilà. Bon. Évidemment, Thierry Magnin représentait le point de vue du théologien, prêtre, etc. Et Axel Kahn, athée. Mais le numéro un, on va dire, en France, au niveau de la génétique. Et Thierry Magnin lui disait, mais comment vous définiriez l'homme? Vous voyez, la théologie, c'est ça aussi, partir des grands, ça tout, et tout le monde est d'accord. Quand le plus grand généticien vous dit voilà ce qu'est l'homme, on s'incline, on dit c'est quand même un type qui a passé toute sa vie là-dessus, il doit être. Et voilà comment il définit l'homme. Par rapport aux animaux, il a beaucoup moins de mémoire que les animaux, que la plupart des animaux. Le rat en particulier, enfin tout ça, on ne va pas faire le détail. L'homme a beaucoup moins de mémoire que lui. Il a beaucoup moins d'instinct, sensibilité, mémoire à distance. Tout ça, l'homme est un infirme. Comme dirait le mythe de Gilgamesh, il a les genoux liés. L'homme est un infirme de ce côté-là. Mais il est le seul, alors là je vais le citer, il est le seul à pouvoir revenir sur sa mémoire, tout infirme qu'elle soit. Il est le seul à pouvoir revenir sur sa mémoire pour en faire un projet, et il s'est repris un futur qui lui permette de dépasser l'horizon de la mort. Ben, retenez bien cette définition-là, je la trouve présente dans tous les films modernes d'anticipation et de tout ce qu'on veut. C'est à la racine des artistes modernes. Affronter à la mort jusqu'au pessimisme le plus absolu. Affronter au non-sens, affronter tout ce que vous voulez. Le seul à pouvoir revenir sur sa mémoire pour en faire un projet, un futur qui lui permette de dépasser l'horizon de la mort. Et vous avez beaucoup de choses là-dedans. Et donc, si l'homme est capable de ramasser, comme dirait Charles Perrault, il est capable de ramasser sa mémoire pour la mesurer à l'histoire qui est devant lui, la foi naît de l'histoire. Pourquoi je dis la foi ? Parce que le même Axel Kahn, après avoir fait une jolie plaisanterie en disant « J'ai voulu être prêtre autrefois », mais vous le voyez d'ici, on m'aurait appelé l'abbé Kahn. La boutade.
C'est lui qui
l'abbé Chamel. C'est moi qui l'abbé Chamel. Mais ouais, la boutade en même temps. Et en même temps, pour qu'il confesse devant un prêtre, astrophysicien ou physicien, plus physicien qu'astrophysicien d'ailleurs, pour qu'il confesse « j'ai voulu être prêtre », ça dit que son discours n'était pas un discours auquel il tenait. Voilà. Et il disait à un moment, peut-être qu'il faudrait creuser du côté du langage. Alors la foi naît de l'histoire, c'est vrai, mais dans la mesure où sa lecture de l'histoire, la lecture que la foi fait de l'histoire va jusqu'à dépasser l'horizon de la mort, elle est alpha et elle est oméga. Ça veut dire qu'elle ne peut pas ne pas se poser la question de l'origine du monde et de la fin du monde. Mais la foi d'où vient-elle? Il répond sans problème, il n'y a pas d'homme qui naît la foi. Ce qui rejoint de Lubac, qui disait en 1936 la même chose. Il n'y a pas d'homme qui naît la foi. Et comment cela se manifeste-t-il? Chez les généticiens et les archéologues, c'est le premier singe ou anthropoïde qui enterre ses morts dans un rituel qui donne à son futur une ouverture sur la mort. Donc un rituel sacré, un rituel orienté vers Dieu, orienté vers un au-delà de la mort. Alors, vous voyez, ma réflexion à partir de cela, l'homme est celui qui n'est pas homme s'il n'a pas la foi. Alors, attention, laquelle foi? S'il n'a pas la foi au sens d'Axel Kahn, c'est-à-dire capable de ramasser sa mémoire pour faire un futur au-delà de la mort, et donc interpréter le cosmos aussi. Vous avez là le monde moderne de toutes les émissions, ou à peu près. Je suis frappé à chaque fois, je me dis, mais oui, voilà la question de fond de ces gens-là. Bien. La seconde question qu'il pose, c'est le langage. Pourquoi pose-t-il la question du langage? Je vais le prendre autrement. Alors, pour l'histoire, vous voyez bien, le père Philippe nous a bien montré la lecture de foi qui est faite au retour de l'exil. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'était parfaitement clair et accessible à tous. Vous êtes d'accord? Hein? Bon, alors là, on ne va pas faire de la surenchère sur ça. Le point suivant, donc, le langage. Et là, moi je l'ai interrogé un peu après cette conférence-là, et je lui ai dit, mais vous êtes resté un peu discret sur le langage. Il m'a dit, oh là, là vous soulevez les questions fondamentales, et il faudrait plus d'un mois pour y répondre. Oh, je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors, je me suis toujours un peu intéressé à cette histoire de langage, en particulier à partir d'un bouquin que j'ai beaucoup apprécié quand j'étais jeune. J'aimais beaucoup la littérature allemande, et il y a un bouquin de Heidegger qui s'appelle Holzweg. Holzweg, c'est-à-dire, Margrethe, voilà, sentier de forêt, chemin qui ne mène nulle part. Et j'ai, voilà, et en lisant ça, qui est passionnant comme tout, il définit les mots. Alors ça, c'est un peu plus pour l'apport de Marie-Odile. Il définit les mots. Les mots sont les bergers de l'être. Heidegger. Alors évidemment, il prend pour modèle Hölderlin, qui est son grand poète. Et qu'est-ce qu'il veut dire par les mots sont les bergers de l'être? Eh bien, nous avons tous des pensées vagabondes, des pensées affrontées à l'horizon de la mort. Nous avons tous des pensées qui voudraient un plus homme ou un au-delà de l'homme. Nous avons tous des pensées vagabondes qui n'arrivent pas à percer la forêt, qui n'arrivent pas à terme, parce qu'il n'y a pas de terme, chemin qui ne mène nulle part. Alors comment faire? Et Heidegger définit le mot, les mots sont les bergers de l'être. Heidegger, les mots sont les bergers de l'être. Autrement dit, nous avons des pensées vagabondes comme un troupeau. Et les mots sont les bergers qui guident nos pensées vagabondes vers, alors pour Heidegger, vers l'être. Vers l'être. L'être sans limite, l'être en tant qu'être. Lévinas, dans totalité infinie, lit Heidegger. et il est furieux. Les mots pour un juif ne sont jamais les bergers de l'être. Ils sont quoi ? Les pensées vagabondes, nous les avons tous. Les troupeaux, nous les avons tous. Et nous mettons des mots. La preuve, nous écrivons une Bible. Nous mettons des mots pour diriger nos pensées vagabondes. Êtes-vous sûr que nos pensées vagabondes s'acheminent vers l'être en tant qu'être ? Oui, à l'époque thomiste, qui définissait Dieu, l'être en tant qu'être. Et pour le bibliste, qui ne connaissait pas encore Aristote et saint Thomas ? Pour Lévinas, qui lit Heidegger et réagit violemment par un bouquin « Totalité et infini ». Il n'en a rien à cirer de ce berger de l'être. Ce n'est pas le berger de l'être, c'est le berger de la parole. Voilà la réaction de Axel Kahn. Voilà pourquoi il faut travailler la parole. Merci à nos deux intervenants. Et vous voyez bien que quand Marie-Odile vous dit un mot en hébreu, c'est trois consonnes. Vous prenez le mot « davar ». Eh bien, il y a au moins une douzaine de significations différentes du mot selon la vocalisation. Des mots qui n'ont souvent rien à voir entre « davar », la parole, et « dever », la peste, je ne vois pas le lien. Autrement dit, les mots ne sont pas les bergers de l'être en hébreu. C'est une langue qui a commencé avec trois consonnes. Et je vois encore mes Américains qui venaient à l'université hébraïque, qui parlaient l'hébreu bien mieux que moi. Et quand je leur disais, t'as lu le bouquin de notre professeur Urbach, tu as lu le petit article qu'il a fait, ils me disaient, oh non, c'est en hébreu. Mais il est traduit en américain. Autrement dit, des gens qui parlaient hébreu préféraient lire la traduction en araméen. Ils étaient en araméen, en américain. Ils préféraient ça pour être sûr d'avoir la pensée du maître. Parce que en hébreu, on n'est jamais sûr de la vocalisation qu'on met sur les mots. D'où le Midrash. Vous lisez le Midrash de la Genèse, vous avez 300 pages. 300 pages, deux commentaires différents. Vous lisez la Mechilta de Rabbi Ishmael sur le chapitre 12, vous avez 150 pages. Je pourrais comprendre. Et moi, quand je disais un Nigayon, c'est pas logique ton truc. Il me répondait c'est davar acher. C'est une autre interprétation. Je termine là. Mais vous voyez le travail de Marie-Odile, aller chercher derrière les mots les traditions d'interprétation. Merci. Ça aussi, ça fait partie de la foi. J'ai pas fait mon papier. Mais j'y reviendrai.